Premier sujet de ce journal cette semaine, Natacha, c'était la folle semaine des remises des prix Nobel. On revient sur cette édition 2019.
On a commencé lundi avec le prix Nobel de médecine. Il a été attribué à William Kelling, Greg Semensa et Peter Radcliffe pour leurs travaux communs sur l'hypoxie. Mardi, le prix Nobel de physique est revenu à trois autres chercheurs, James Peeble pour ses travaux en cosmologie et Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte de la toute première exoplanète. Et enfin mercredi, le prix Nobel de chimie a été attribué à un autre trio, John Goodenough, Stanley Whittingham et Akira Yoshino pour leur invention de la batterie lithium-ion. Alors chacun de ces prix récompense des découvertes majeures, mais de nombreuses critiques ont été émises cette semaine. Celle du manque de parité, 9 lauréats, soit le maximum possible et pas une femme. Et autre critique, l'âge des lauréats. Une dot de plus de 800 000 euros environ, qui ne revient plus à la jeune recherche. John Goodenough a 97 ans par exemple. Donc est-ce que l'esprit des prix Nobel n'est pas dévoyé? On retourne dans le testament d'Alfred Nobel avec Antoine Jacobin, ancien correspondant à Stockholm et auteur du livre « Histoire du prix Nobel » aux éditions François Bourin.
Alors, il voulait récompenser des personnes qui ont œuvré pour le bien de l'humanité. Ça, c'est un peu le chapeau général pour les 5 disciplines qu'il a décidé d'instaurer dans son testament. Et ensuite, il précise davantage pour chacun des disciplines le genre de profil de personnes qu'il souhaiterait voir récompensées. Et donc, pour les prix scientifiques, il dit lui-même qu'il fallait que ça soit pour des découvertes faites dans l'année en cours. Et donc, il fallait prouver parmi les inventeurs de l'époque, les savants, etc., ceux qui avaient fait la découverte de l'année la plus intéressante. Les premiers prix, ça va à la découverte de sérums qui permettent de traiter des maladies comme le typhus et autres. Après, effectivement, on peut imaginer que grâce à cette somme, un inventeur peut aller de l'avant dans ses découvertes. Puis ça paraît logique, effectivement, que ça puisse ensuite être réinvesti. Le fait est, en revanche, que à la suite de certaines erreurs dans les choix de lauréats, on a décidé, au fil du temps, d'être beaucoup plus précautionneux et d'attendre que certaines inventions ont bien fait leur preuve. C'est un principe de précaution qui peut s'expliquer quand on regarde un peu l'histoire des prix de médecine par quelques erreurs. Je parle par exemple de la lobotomie, un prix accordé en 1949 à un Portugais, Monsieur Moniz. Et puis par exemple, un an avant aussi, il y avait un Suisse qui avait été récompensé pour ses travaux sur le DDT. C'était utile contre le paludisme à l'époque, mais on ignorait alors que, bien sûr, tous les dégâts que peuvent causer le DDT sur l'environnement.
En bref, selon le dernier rapport du Climate Accountability Institute, 20 entreprises produisent plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre.
Pour ce rapport, les déclarations annuelles de production des géants des énergies fossiles ont été analysées pour ensuite pouvoir calculer les quantités de méthane et de CO2 émises. Depuis 1965, 20 entreprises ont généré plus de 480 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. 12 d'entre elles sont des entreprises d'État, 4 sont américaines, et une société française, Total, fait partie de cette liste.
En bref, toujours, et bon appétit, pour la première fois à bord de la Station Spatiale Internationale, une imprimante 3D vient d'imprimer de la viande artificielle.
Oui, elle a été dégustée par les astronautes de l'ISS. C'est une collaboration internationale. L'imprimante 3D vient du laboratoire russe 3D Bioprinting Solution, et l'encre, entre guillemets, a été préparée par des équipes américaines et israéliennes. Pour produire cette viande artificielle, des cellules bovines ont été cultivées pour former des tissus musculaires recréés en conditions d'apesanteur. C'est plus facile à produire dans l'espace que dans des conditions de gravité terrestre.
Et on vient d'apprendre le décès d'Alexei Leonov, le premier homme à être sorti dans l'espace.
Une première historique le 18 mars 1965, une sortie qui dura 12 minutes pour la mission soviétique Voskhod 2, diffusée en direct à la télévision. Le cosmonaute russe était alors relié au vaisseau avec une simple corde. Alexei Leonov est mort aujourd'hui à l'âge de 85 ans.
Hier, la compagnie américaine ILS a lancé son satellite MEV-1, le premier remorqueur spatial.
Nous en parlions cette semaine dans la méthode scientifique. Après les embouteillages dans l'espace, voici le dépannage spatial. Le MEV, pour Mission Extension Vehicle, a pour objectif de ravitailler un autre satellite en vol. Le satellite de télécommunication Intelsat 901, qui est en orbite depuis 18 ans. Alors, il ne devait marcher que 13 ans, mais il fonctionne encore très bien, sauf que problème, il manque de carburant pour se maintenir sur l'orbite géosynchrone sur laquelle il se tient. L'opérateur de télécom a donc décidé de faire appel à une dépanneuse de l'espace pour lui fournir de l'ergol. Cela devrait lui permettre de poursuivre sa mission pendant encore 2 ans, voire 5. Le MEV-1 a donc une durée de vie de 15 ans. Il a suffisamment d'ergol pour ravitailler d'autres engins. Prolonger la vie des satellites de cette façon, c'est une opération inédite. Stéphane Bérivin est chef du service architecture plateforme télécom au CNES à Toulouse.
Donc on a notre MEV 1 qui sera parti depuis 3-4 mois. Lorsqu'il va commencer à s'approcher de l'orbite finale, le satellite Intelsat 901 va commencer à bouger aussi. Tout simplement parce que c'est une mission très innovante qui n'a jamais été faite. Et on veut pas, en cas de problème, générer des débris à l'endroit qui est important pour la mission. Donc ce qu'on va faire Intelsat 901, c'est qu'il va bouger à une orbite un peu plus haute, environ 300 km au-dessus de l'orbite Géo. On appelle ça une orbite cimetière. C'est-à-dire que si jamais il arrive quelque chose à cette orbite-là, il n'y aura pas de conséquences pour les futurs services opérationnels. Le MEV va s'approcher progressivement et ensuite il va commencer sa manœuvre d'approche finale. C'est une phase très délicate parce que le satellite Intelsat 901, le satellite client, n'a pas été conçu pour pouvoir être attrapé par un autre satellite. Donc ce qui a été choisi par les ingénieurs de Northrop Grumman qui a fabriqué le MEV 1, c'est de s'accrocher sur la tuyère d'apogée. C'est une tuyère, c'est un moteur qui est utilisé juste au début de vie du satellite, qui n'est plus utilisé après. Donc si jamais on l'endommage, c'est pas très très grave. Donc il va s'accrocher, il va attraper cette tuyère. Ensuite, il va s'en servir pour s'approcher encore plus et attraper un autre élément qui est l'interface lanceur pour faire de ces deux satellites un seul satellite. Et ensuite, une fois qu'il sera complètement accroché, c'est le MEV 1 qui va permettre à la mission de continuer puisque lui, il a beaucoup d'ergols à bord et il va pouvoir se servir de ses propres ergols pour pouvoir maintenir la position du satellite Intelsat 901. Ils vont redescendre tous les deux, donc ils sont accrochés, vers l'orbite opérationnelle finale.
Nous vous avons parlé tout au long de la semaine de la remise des prix Nobel de médecine, de physique et de chimie, mais nous avons aussi parlé des mécanismes moléculaires du cycle de fertilité chez la femme. Et si on se penche sur l'actualité scientifique de la semaine, Natacha, en ultra bref.
En ultra bref, nous avons la preuve que de l'eau a coulé sur la surface de Mars. L'atterrisseur de la NASA Curiosity a analysé les roches du cratère Gale. Elles sont riches en sels minéraux. Selon l'étude parue dans Nature, le cratère contenait des lacs d'eau salée avant qu'il ne s'assèche il y a environ 3 milliards d'années. Cette semaine, on a découvert que Saturne avait 20 lunes supplémentaires. 17 d'entre elles sont sur des orbites rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles tournent dans le sens opposé à la rotation de la planète. Avec en tout ses 82 lunes, Saturne devient l'aplanètre de notre système solaire qui a le plus grand nombre de satellites. Et enfin, pour la première fois en Sibérie, on vient d'extraire un diamant à l'intérieur d'un autre diamant en creux. On ne comprend pas comment une telle formation minérale est possible. Ce diamant en poupée russe a été baptisé diamant Matryoshka.
Et comme chaque semaine, on termine ce journal par la rubrique d'improbable logie. Dans la revue PLOS ONE, des chercheurs ont peint des vaches comme des zèbres pour mieux comprendre l'utilité des zébrures.
Et pourquoi les zébrures des zèbres? C'est une question à laquelle nous n'avions pas de réponse jusqu'à ce que des chercheurs japonais fassent cette expérience. Dans deux groupes différents, ils ont peint certaines vaches en zèbres, puis ils ont compté le nombre de mouches qui se sont posées sur elles. Résultat, celles peintes en zèbres attirent beaucoup moins de mouches que celles qui ne le sont pas. L'étude suggère que les rayures noires et blanches brouillent la vision des insectes et provoquent une sorte de camouflage. Donc pour faire fuir les mouches, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Merci beaucoup, Natacha.
Merci Antoine, merci Natacha.